Aujourd'hui, j'emmène la radio à la Ronceret, à Saint-Laurent-de-Trèves, un lieu de résidence, un lieu d'exposition, un lieu riche d'artistes qui fourmille de culture et qui fonctionne grâce au monde associatif, mais surtout un lieu qui existe grâce à toi, Nausicaa Boutreuil. Bonjour à toi.
Bonjour.
Tu as ouvert officiellement la Ronceret aux artistes en 2019. J'ai cru comprendre que c'était un rêve d'enfant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ce rêve ?
Oui, absolument, tout à fait, c'est un rêve d'enfance concrétisé, puisque j'imaginais petite fille créer un théâtre dans une grange que je voyais énorme. Bon, elle fait que 50 mètres carrés, mais finalement on peut accueillir jusqu'à 50 personnes en place assise. Et puis de ce rêve de théâtre, ça s'est transformé aussi en salle d'exposition, en salle où on trouve des sorties de résidence, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer demain soir, une sortie de résidence de clown, et puis aussi des concerts, il s'y passe des choses en effet très variées.
Ça a été quoi tes inspirations petites ? Tu as été inspirée du coup par tes parents ou par ton vécu, des spectacles que tu as vus ?
Alors, je crois que j'ai été inspirée beaucoup par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine à Vincennes, où c'était des émotions très très fortes, ces spectacles. Je garde un souvenir du film Molière avec Philippe Cobert. Voilà, c'est complètement imprégné dans mes cellules. Aussi le film Le Maître de Musique de Corbiot. Je crois que c'est des émotions, et c'est ça qui fait palpiter mon cœur. Et je me suis dit, il fallait faire palpiter le cœur des autres aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'association s'appelle le Joya Encore, qui veut dire en langue occitane le cœur en joie.
Tu ne tiens pas que ce bâtiment, tu as aussi toi-même un travail d'artiste, tu as un personnage de clown qui s'appelle Rosette, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument, alors là, comment as-tu trouvé une chose pareille ? Oui, en effet, ça m'arrive donc d'être en clown Rosette, et d'ailleurs, en même temps d'une résidence de ma professeure de clown Mylène Normier, je suis moi-même en résidence avec Hugues Joudrin, et nous sommes en train de travailler sur une création qu'on espère pouvoir présenter en 2024, mais je n'ai pas encore le mois ni la date.
Aujourd'hui, il en est où ce rêve ? En 2021, quand tu passais en matinale avec Ben, tu disais qu'il était encore en préparation, encore en formation. Aujourd'hui, c'est bon, il est atteint, ou il y a encore quelque chose, deux, trois éléments qui...
Alors oui, c'est une véritable aventure initiatique, donc l'intérêt c'est que ça bouge tout le temps. D'abord, comme il n'y a pas de sélection au niveau de l'accueil des artistes, comme je dis à chaque fois, tout ce qui est vulgaire, grossier, ne rentre pas à la Ronceret. Et ça me permet de découvrir des cultures de musique en particulier, du théâtre. Je ne serais pas allée forcément vers ça, mais c'est toujours des rencontres humaines exceptionnelles. J'ai la chance vraiment d'accueillir des artistes qui sont des anges.
Je disais un peu plus tôt que ce lieu existait grâce à toi, mais c'est peu dire. Que serait ce lieu sans toi ? Est-ce que tu saurais verbaliser du coup toute l'implication que tu as ici ? Qu'est-ce que tu fais chaque jour ? Est-ce qu'il y a même une routine qui s'est créée ? Ou alors chaque jour est différent ?
Alors chaque jour est complètement différent, il n'y a aucune routine, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que les journées ne se ressemblent absolument pas, et donc c'est ça qui fait que la vie au quotidien est assez formidable, assez exceptionnelle. Et puis elle est bien sûr, c'est aussi grâce aux personnes qui sont là en résidence, qui font que chaque journée présente ses miracles. Voilà.
Et du coup, quel est ton rôle ici ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, avant tout, c'est l'accueil, bien sûr, parce que pour moi, c'est important que les artistes se sentent bien. Et j'essaye de tout faire pour que ça se passe bien au niveau des artistes, mais aussi au niveau des spectateurs. Et à chaque fin de spectacle, il y a souvent un verre de l'amitié à partager pour permettre l'échange entre les spectateurs et les artistes. Mais parfois, il y a aussi des échanges entre artistes, parce qu'il se peut qu'il y ait des expositions de peinture, de photographie, en même temps des résidences de clowns ou de comédiens ou de danseurs ou de musiciens. Et alors ça, évidemment, je suis très privilégiée parce que j'assiste à ces échanges entre artistes.
Il y a beaucoup d'artistes, tu dis, peintres, du théâtre, des musiques. Il y a du coup, j'imagine, beaucoup de lieux. Cet endroit, il doit être assez grand, ou alors il est bien dispatché. Est-ce que tu peux me faire une petite visite comme ça, de tête, nous montrer les lieux ?
Alors oui, tout à fait, absolument. Donc il y a la salle principale, je dirais la salle de création, qui fait 50 mètres carrés, qui était anciennement une grange rénovée. Après, il y a également ce qu'on appelle une salle de musique, qui est un petit peu plus petite, mais qui offre la possibilité même de répéter pour des chorales. Et il y a en dessous de la grande salle de création, il y a des loges pour artistes. Donc il y a 5 postes à maquillage, ce qui permet de, pour les artistes de se préparer tranquillement. Et il y a tout le premier étage est réservé à l'hébergement, donc je peux accueillir jusqu'à 9 personnes voilà, en hébergement.
Tu as fait le choix d'établir la ronceret ici, à Saint-Laurent-de-Trèves, certains diraient au milieu de nulle part.
Oui.
Pourquoi ici ?
Alors d'abord parce qu'en effet, mes parents avaient acquis cette maison en 1973, elle était un peu en ruine, donc ils ont fait énormément de travaux et je me suis retrouvée avec cette maison beaucoup plus tôt que prévu et je me suis dit, il faut absolument partager cette maison avec le public, les artistes. C'était un ancien relais des postes et diligences, donc en effet, elle retrouve, je dirais, ces lettres de noblesse, de relais pour les artistes qui viennent ici se ressourcer, créer et d'ailleurs, il y a des résidences où parfois les artistes vont travailler à la table, il n'y a donc pas de restitution auprès du public, ou il y a une restitution auprès du public, mais ça peut être voilà, les 25 premières minutes du spectacle, ou le spectacle est moitié lu, moitié mise en scène, et enfin, le spectacle, ça y est, il est prêt, et c'est ce qui va se passer demain soir, et il y a un moment, il faut le tester auprès du public.
Il y a un attrait quand même peut-être pour les artistes de venir faire une résidence ici parce que c'est justement au milieu de nulle part. Est-ce que le cadre invite des gens à venir ici se ressourcer, chercher des idées ? Ou la tranquillité
Alors oui, je pense qu'en effet, c'est pour se ressourcer, la tranquillité, et puis ça permet à la fois de rester très concentré sur la création, et puis de pouvoir voilà, faire un tour sur le site des empreintes de dinosaures, ou alors aller sur le col du Ray, ou la canne d'Hospitalet, et vraiment s'aérer, se ressourcer. Je pense qu'on a la chance d'habiter dans un paysage absolument, enfin un lieu absolument magnifique, avec des paysages grandioses, donc c'est vrai que c'est certainement un attrait pour les artistes.
La ronceret en plein milieu de la Lozère, c'est peut-être pas évident pour tout le monde au début. Est-ce que tu as réussi à te faire une place, que tu as réussi à t'inscrire dans le territoire de la Lozère ? Est-ce que tu considères avoir ta place aujourd'hui dans la culture ?
Ah ben c'est une bonne question, je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est une histoire. Là, c'est 2023, c'est la cinquième année, donc j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Je pense qu'il faut encore travailler et puis s'enraciner, hein, comme la nature. Il faut s'enraciner localement pour après pouvoir grandir et puis avoir une ouverture vers d'autres cultures, d'autres pays. Quoique, il y a eu déjà des artistes de Corée du Sud, des artistes de Hongrie, voilà.
Et tu as réussi du coup à faire des collaborations peut-être avec d'autres organismes, structures culturelles du coin ?
Alors oui, tout à fait. Il y a eu déjà des soirées en partenariat avec la Jeunette Verte, les Scènes Croisées de Lozère. J'ai toujours beaucoup de bonheur aussi d'accueillir les Contes et Rencontres des foyers ruraux. Et ça, c'est aussi voilà, très important pour moi de pouvoir mettre en place ce type de partenariat.
Et en parlant de collaboration, tu l'as peut-être fait aussi avec d'autres artistes pour permettre de faire connaître le lieu, attirer des gens.
Alors ça, c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de communication, hein, j'ai pas de budget pub, communication, et puis je préfère que ça se passe en fait de bouche à oreille entre artistes, c'est-à-dire que les comédiens vont en parler à d'autres comédiens, ils ont vu le lieu, ils ont pu tester le lieu, l'environnement, et voilà, comme c'est une histoire de cœur, hein, voilà, le cœur en joie, je pense que c'est important de garder cette relation-là vraiment de bouche à oreille.
Et du coup, au milieu de tout ça, en parlant de bouche à oreille, c'est qui au final le public de la ronceret ? Est-ce qu'il est fixe ? Est-ce qu'il est constant ? Est-ce qu'il y a des âges différents ? Est-ce que c'est des locaux, des touristes ?
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a absolument de tout. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les locaux, parce que ça, c'était pour moi très, très important d'accueillir les habitants dans ce lieu. Et puis aussi les touristes, puisqu'en effet, par exemple, cette année, il y a eu des expositions du 8 mai au 24 septembre. Et donc, évidemment, grâce au site des empreintes de dinosaures, il y a eu énormément de touristes, donc beaucoup de Français, mais aussi des Allemands, des Belges, des Hollandais, également des personnes d'Afrique du Sud. Et donc, c'est ça qui est passionnant, c'est à la fois cet enracinement local avec cette ouverture sur l'international et national, voilà.
En parlant de l'asso, du coup, c'est Joya & Core, oui. Tu l'as dit à l'instant, le cœur en joie.
Absolument. Oui, tout à fait. Donc, en langue occitane, ça signifie le cœur en joie. Et puis, c'est une association. Nous sommes trois femmes, trois amies à nous occuper de cette association. Isabelle Austin, Marie-Noëlle Debelle et moi-même. Mais il y a aussi plein d'autres personnes. Philippe Le Bihan, qui a créé le site Internet et qui le met à jour très régulièrement. Voilà, Rémi Noël, qui s'occupe de la régie technique et également des relations avec la presse. Et puis, des bénévoles, des personnes qui soutiennent, et sans oublier bien sûr le soutien de la mairie de Caen et Cévennes, la communauté de communes Gorges-Causses et Cévennes et le département de la Lozère, sans qui l'aventure ne pourrait pas se poursuivre d'année en année, ça c'est certain.
Et du coup, comme toute structure associative, vous avez du coup un besoin de bénévoles. C'est quoi votre besoin? Pourquoi vous avez besoin de bénévoles? Pour quelles actions?
Alors, je dirais les bénévoles, c'est avant tout pour accueillir les touristes de passage, par exemple, lors des expositions. Et puis, c'est des petits coups de main ponctuels lorsque il y a des soirées, parce que on peut avoir des soirées parfois jusqu'à 50 personnes ou moins. Donc, c'est avant tout au niveau de l'accueil, je dirais.
Au niveau des résidences aussi, du coup, c'est quand même l'idée principale, j'imagine, de la Ronceret, c'est pouvoir accueillir des artistes pour qu'ils puissent travailler. Tu accueilles combien de résidences par année ?
Alors, en matière d'année, c'est un peu moins d'une dizaine de résidences par an. C'est très variable. Ça peut être une résidence de 2 jours pour juste fixer des aspects techniques en lumière, en son. Ça peut être également des résidences, je dirais plus constructives dans la création et qui durent 18 jours. Voilà. Mais il n'y a pas de compagnie de théâtre à demeure comme ça peut arriver dans certaines résidences. En règle générale, c'est souvent autour de, je dirais, 6 à 8 jours.
Ce lieu, c'est un lieu d'accueil de résidence, mais c'est aussi ton lieu de vie à toi. Il me semble que tu vis juste à côté.
Oui, absolument. Alors, pour l'instant, je vis encore un peu au milieu des artistes et bientôt, je serai juste à côté, enfin, vraiment pas loin. Hein. Ce qui permettra de libérer une chambre avec une salle d'eau supplémentaire. Quoique, c'est toujours un bonheur de partager les repas avec les artistes. Mais là encore, je leur demande à chaque fois, c'est parce que ça dépend bien sûr des artistes, des résidences. Certains, on échange tous ces moments de repas, ce qui est toujours très intéressant. Et puis parfois, je les laisse tranquilles aussi et on se retrouve le soir, lors du dîner.
Et à vivre comme ça au milieu des artistes, tu dois être toujours forcément très impliqué mentalement, physiquement. Tu bosses tout le temps, tu travailles tout le temps, plus ou moins, sur chaque nouveau projet. Et comment tu te sens entre deux résidences ou entre deux spectacles quand il n'y a personne, quand tout est vide? Est-ce qu'il y a ce moment de solitude?
C'est intéressant, ça aussi, cette question. C'est sûr qu'il peut y avoir une fatigue émotionnelle parce qu'il y a énormément d'émotions, on rit beaucoup, on pleure rarement, il faut dire, on rit beaucoup, mais parfois, en effet, il y a énormément d'émotions, ça remue toujours les artistes et leur univers. Ça remue l'intériorité, ça c'est sûr. Mais en fait, entre deux résidences, je dirais, c'est aussi pour moi le moment où moi-même je me ressource du coup. Donc j'aime bien aussi ces moments plus de solitude, de calme, et du coup ça me permet aussi de me recharger pour la résidence suivante ou l'exposition,
C'est pas du coup un lieu que de résidence, tu refais des spectacles entre deux, des expositions, non, t'as pas un besoin, un vide à combler par de l'artistique?
Oh là là, non, je crois pas en fait. Je crois pas que j'ai un vide à combler. J'ai l'impression d'être très pleine en fait. Donc du coup, non, mais après voilà, j'aime aussi les moments où je me retrouve, où j'aime lire. C'est vrai que j'étais en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a des moments de... Après, il y a des moments de doute. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas si simple que ça. Et puis c'est bien de l'admettre et de le reconnaître. Et puis d'en parler, de dire mais est-ce que, à quoi ça sert finalement de faire ça, pourquoi, et puis après une très belle soirée et puis des échanges magiques entre artistes et spectateurs, on se dit ah oui non, vraiment ça vaut la peine de continuer, de poursuivre. Et c'est comme ça que d'année en année, même si parfois il y a des moments de doute quand même, si il faut avouer, il y a des moments de doute, c'est une telle aventure humaine passionnante qu'on se dit bon allez, je vais encore continuer quelques mois puis je verrai dans quelques mois comment ça se passe. passe.
Mais en parlant de moments de doute, tu as créé du coup cet endroit en plein milieu, en plein début de Covid, j'imagine, par là où tu as vécu du coup toutes les années Covid en plein dans la création de ce lieu. Comment ça t'a impacté?
Eh ben, en fait, j'ai pas été impactée puisque c'est un lieu privé qui accueille du public. Donc, j'ai décidé de prendre évidemment toutes les mesures sécuritaires que voilà, il y avait aucun problème et ça s'est bien passé. Mais on a continué à fonctionner parce que pour moi c'était important de garder cette ouverture, d'accueillir tout le monde. Je ne pouvais absolument pas envisager une ségrégation par rapport à un état de santé. Ce n'était absolument pas dans mes valeurs. Ça l'est toujours pas. D'ailleurs, et donc c'est un lieu ouvert à partir du moment où, voilà, bien sûr, on appliquait les règles sécuritaires, sanitaires, etc. Et puis les gens venaient s'ils le souhaitaient. Et voilà, pour moi c'était important. Et du coup, très clairement, je n'ai pas ressenti, comme malheureusement certains lieux qui ont été obligés de fermer pendant plusieurs mois, la vie a continué, évidemment dans un format plus restreint, mais c'était pour moi important parce que j'estime que la culture, les arts, c'est absolument essentiel. Voilà.
Tu parlais un instant de ségrégation par rapport à des maladies, état de santé. Ça m'est venu à la tête comme ça, j'ai pensé aux personnes à mobilité réduite, fauteuil roulant, tout ça. Oui. C'est adapté du coup, les scènes, les spectacles, tout ça?
Oui, bien sûr. Alors, pour accueillir en effet les spectateurs en fauteuil roulant, puisque grâce à des amis, donc une personne qui était en fauteuil roulant en manuel et l'autre personne en fauteuil roulant électrique, vraiment, on a pu tester, je dirais, en live, la possibilité d'arriver par le portail et d'arriver jusqu'à la salle. Après, c'est vrai que pour une résidence d'artistes en fauteuil roulant, là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une maison ancienne, voire très, très ancienne, Sévenol, et donc il y a des marches partout, et ça c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, au moins pour les spectateurs, pour moi c'était important de... y a une rampe qui a été créée pour que justement on puisse accueillir aussi les personnes en mobilité réduite.
Je reviens vite fait sur les résidences. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a 6-7 mois. Je ne m'y intéressais pas forcément. Oui. Et du coup, je suis toujours à la recherche de comment ça fonctionne, comment ça marche. Toi, ici à la Ronceret, comment tu fonctionnes pour tes résidences? C'est toi qui vas chercher les gens? C'est eux qui sont en demande et qui viennent demander une résidence à cet endroit-là?
Alors oui, c'est vrai que je ne prospecte pas. Je ne vais pas chercher. Parce que c'est vrai que dans une autre vie, je faisais que de la prospection et j'allais chercher à l'époque. Donc, c'était les clients. Et donc là, j'ai décidé que j'allais fonctionner complètement autrement. Et ce sont les artistes qui découvrent les lieux, soit, comme je disais tout à l'heure, de bouche à oreille, soit en faisant des recherches sur le site internet. Et je trouve ça finalement tout aussi bien. C'est très agréable. Après, c'est vrai que s'il y a une résidence, par exemple, à 4, 5, 8 comédiens, et qui vont être en huis clos, je dirais, pendant 5 jours, voire 10 jours, je préconise toujours de faire une petite visite avant pour sentir le lieu au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pour savoir s'ils s'y sentent bien, s'ils pensent que c'est possible de réaliser une création, de travailler. Parce que ça, je pense que c'est important quand on sait qu'on va se retrouver à plusieurs et à travailler sur la création. C'est pas toujours évident parce que ça remue beaucoup de choses intérieurement et il faut être vigilant pour que ça soit, que ça se passe le mieux possible. Et donc c'est vrai qu'ici c'est comme un petit cocon, on est en sécurité pour aller chercher au plus profond de soi sa lumière, tout simplement.
Tu disais tout à l'heure que tu accueillis à peu près une dizaine de résidences à l'année. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas plus de demandes ou c'est toi qui te mets un frein, tu te limites à une dizaine?
Alors pour l'instant oui, c'est un peu moins d'une dizaine. C'est pas que je me limite pas. C'est pour l'instant ça se passe comme ça. Je ne force pas et c'est vrai que voilà, ce sont les personnes qui demandent et ça fonctionne bien. Peut-être que ça pourra changer d'ailleurs. Ça fonctionne comme ça en 2023. L'année prochaine ça fonctionnera peut-être autrement. Pour moi c'est important que ça c'est pas figé. Il y a pas de fonctionnement. Figé par rapport à une résidence d'artiste, surtout que c'est chaque résidence d'artiste, je pense à son fonctionnement, son modèle économique qui diffère, voilà. Alors, je pourrais accueillir plus à partir du moment où les artistes ne sont pas frileux, parce que il y a pas de chauffage central quand même durant l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Alors, je dirais octobre, novembre, c'est encore tout à fait joie, parce que les murs sont encore remplis de, enfin voilà, sont remplis de chaleur de l'été. Janvier, février, mars, là c'est quand même très différent. Alors, il y a toujours moyen de chauffer les chambres, évidemment. La salle de création, elle est chauffée avec un poêle à granulés qui fonctionne très très bien, donc ça il y a pas de souci pour travailler. Après les chambres aussi, voilà. Après les pièces communes, ça peut être un peu plus compliqué.
Sortons des résidences, parce qu'en parallèle, du coup, pour rappeler un peu les événements que tu organises, tu as des soirées comptées, des lectures, des spectacles, des concerts, des stages et encore plein d'autres choses, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à organiser, que tu trouves pas encore le temps, que tu aimerais faire mais que c'est pas encore possible?
Alors là, je suis surprise de tout ce qui s'y passe et finalement je fais confiance aux artistes parce que moi j'ai pas une grande imagination et du coup je pense être assez limitée au niveau de mon imagination et je fais confiance aux artistes pour imaginer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors très clairement par exemple, c'est grâce à une artiste, France Alti, qui m'a proposé de faire des expositions collectives. Et c'est vrai que je m'étais, dans ma tête, j'imaginais avoir juste une salle, la salle de création de 50 mètres carrés pour accueillir des, voilà, des tableaux, des sculptures, des photographies. Et puis finalement, grâce à elle, elle m'avait proposé de faire une première exposition avec 7 ou 8 artistes et alors du coup avoir des œuvres d'art un peu partout. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Il y avait des œuvres d'art jusque dans les loges des artistes. Et de moi-même, je n'y aurais absolument pas pensé. Et ça, je trouve ça vraiment bien d'être à plusieurs, hein, plusieurs cerveaux, plusieurs imaginaires. Comme je dis, à partir du moment où on respecte le lieu, je suis ouverte à beaucoup de choses. Après, c'est vrai que c'est un lieu quand même qui... par exemple, j'ai des demandes de résidence d'artistes du cirque. Et j'adorerais les accueillir, mais c'est pas un lieu approprié, c'est un peu petit pour eux parce qu'il leur faut des grands volumes, des grands espaces. Et il y a d'autres résidences qui offrent des espaces exceptionnels pour ces artistes de cirque.
C'est quoi les nouveautés qu'il y a eu cette dernière année ou des nouveautés qui sont prévues, qui vont arriver l'année prochaine?
Alors, il y a des choses en cours. Alors, il y a l'activité d'ateliers, de stages, comme par exemple les ateliers de chaque danse avec Céline Duchesne, voire peut-être des cours privés de tango argentin avec Augusto Avenio. Il y a aussi des ateliers d'écriture avec Marlène Sauvage, des ateliers de chant avec Joanne Tintinville, que le 28-29 octobre par exemple, donc des choses assez variées. Et puis ce qu'on a inauguré cette année avec Rémi Noël, c'était les veillées du diligent Patachon sur des thèmes très particuliers comme les Vierges Noires, la chanson du Bouvier. Et les prochaines veillées du diligent Patachon, ce seront le 31 octobre sur l'histoire de Jeanne d'Arc, la vraie histoire de Jeanne d'Arc, et au mois de novembre, le 11 novembre, ça sera une lecture d'un texte de François Rabelais sur le bon usage de vin. Voilà, avec, je crois, une dégustation de vin grâce à un ami œnologue.
Et à accueillir plein de stages comme ça pour cette année et vivre à côté, ça va pas te tenter, te donner envie de participer à beaucoup trop de stages en même temps?
Et ben voilà, alors excellente question. Il se trouve que je participe en effet parfois, parce que je craque, à des stages en particulier. J'ai participé au stage de clown réalisé par Mylène Lormier le 22, 23, 24 juillet. Et vraisemblablement, je sens que je vais participer au stage de chant de Joanne Tintinville, auquel j'avais déjà participé à un de ces stages de chant l'année dernière, parce qu'elle aborde le chant de manière assez extraordinaire. Voilà.
Est-ce que tu aurais une mot, une phrase, une citation, un conseil culturel pour terminer?
Sur la culture. Voilà. Alors. Moi je suis persuadée de manière complètement intuitive que la culture, le spectacle vivant, c'est essentiel et que c'est excellent pour la santé. Alors le rire, évidemment, c'est excellent pour la santé. Et j'ai découvert récemment dans un livre que c'était même préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, que ça faisait partie d'un bon fonctionnement, enfin que en tout cas l'existence des arts, du spectacle vivant, mais aussi des expositions, de l'existence de librairies, de bibliothèques, faisait partie intégrante d'une meilleure santé psychologique et physique. Et ça, voilà, j'étais surprise de voir ça dans des rapports de l'Organisation mondiale de la santé, parce que moi c'est ma croyance très intime que c'est primordial. Parce que ça fait découvrir des univers très variés, très différents. Après, on peut aimer ou pas, mais pour moi, c'est important et ça fait partie d'une bonne santé physique et mentale.
Où est-ce qu'on peut retrouver le programme de la Ronceret
Alors, en effet, le programme de la Ronceret, en règle générale, sur le site internet de Joy Encore, donc c'est www.joia.encore.com. Il est à jour grâce à Philippe Le Bihan, et s'il n'est pas à jour, c'est de ma responsabilité parce que je ne lui ai pas envoyé les documents ou les informations à temps, puisque j'ai décidé de changer de vie. Et donc, ce que je mets en avant, c'est plutôt la rencontre humaine, l'accueil, les échanges. Et donc, je passe le moins de temps possible devant un écran et devant l'ordinateur. Mais il est excessivement réactif et tout de suite, il met à jour les informations. Après, c'est vrai que je communique beaucoup par mail et donc j'envoie l'information aux personnes qui le souhaitent, qui me laissent leur adresse email. Et grande nouveauté en année 2023, j'essaye de mettre à jour aussi une page Facebook.
Merci beaucoup Nausicaa, et au plaisir de revenir ici pour voir des spectacles.
Et avec grand plaisir, merci beaucoup Léo, à bientôt.